Mémoire vive,
présentée par Stéphane Bou
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Nous sommes au terme d'une semaine qui a vu la 75e commémoration de la libération d'Auschwitz, la cérémonie donnée à Yad Vashem où se sont rendus une quarantaine de chefs d'État à l'occasion du 5e forum sur la Shoah, en France, le discours d'Emmanuel Macron au mémorial de la Shoah. Au cours de cette semaine, la mémoire de la Shoah donc était très présente dans l'espace public. La voix des derniers survivants se sont fait régulièrement entendre dans les médias. La télévision française a diffusé de nombreux reportages et documentaires, ainsi que des émissions comme celle sur France 2 le 28 janvier dernier, se demandant si l'on peut en finir avec l'antisémitisme. Dans ce contexte, nous avons voulu consacrer deux émissions avec l'historien Denis Péchanski pour revenir sur l'histoire de la mémoire de la Shoah, ses usages et ses transformations. Bonjour Denis Péchanski.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire du communisme, des camps d'internement en France, de la période de Vichy, mais vous vous consacrez aussi à ce champ académique plus récent, je dirais, que sont les études sur la mémoire. Vous êtes membre du comité de lecture de la collection Témoignages de la Shoah de la FMS, membre de nombreux comités scientifiques de lieux de mémoire en France, plus particulièrement au mémorial de Caen, le mémorial de Rivesaltes, et vous êtes aussi le directeur scientifique du projet Matrice, dont la vocation est de comprendre les interactions entre mémoire individuelle et mémoire collective. Alors, nous reviendrons plus longuement la semaine prochaine sur ce projet Matrice, mais cette semaine, il nous a semblé qu'il était intéressant de revenir avec l'historien de la mémoire, sur les réflexions que lui inspire cette semaine que nous venons de passer sur les grandes étapes de la mémorialisation de la Shoah. Et alors, ma première question, c'est que je crois savoir que vous avez accompagné la semaine dernière le président de la République Emmanuel Macron en Israël et assisté à la cérémonie qui a Yad Vashem, donc en présence de nombreux chefs d'État venus du monde entier, marquait ce 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Comment vous l'avez perçu cet événement?
Alors, c'est très intéressant parce que, comme toujours, quand on est face à un événement monde, parler du passé avec ses commémorations, c'est une façon de parler d'aujourd'hui. Et c'est finalement ce passé qui est convoqué pour parler du présent.
Quand vous dites événement de monde, qu'est-ce que vous entendez exactement? Vous voulez dire que le monde entier regarde en même temps le même endroit?
Non seulement il regarde, mais il considère que c'est un événement structurant de la mémoire collective des peuples et des peuples du monde. Et ça, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Ça fonctionne de la même façon avec le débarquement, où on parle de tout sauf la plupart du temps du débarquement. De la même façon, c'est presque plus récent. Ces commémorations récurrentes sur la libération d'Auschwitz est une occasion de réunir les grands de ce monde pour parler d'aujourd'hui.
Alors, pour parler d'aujourd'hui, et effectivement, l'actualité se réfléchit dans ces commémorations, puisqu'il y a toujours, on pourrait dire, des nouveautés. Et là, la nouveauté, cette année, j'en vois deux, il me semble. On pourrait dire qu'il y a une petite nouveauté qui est la présence à la fois de Poutine et l'absence des Polonais. On peut en revenir, ça dit quelque chose de notre moment historique. Et puis il y a surtout, alors là, une grande nouveauté, c'est le déplacement du centre de cet événement monde d'Auschwitz à Jérusalem. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec la tribune d'Annette Wieworka qui dit que c'est pour elle vraiment une nouveauté majeure que d'assigner à Israël d'être le lieu où désormais l'événement monde a lieu?
Je crois qu'Annette Wieworka a raison. Elle a fait un très bon papier qui met en perspective, en plus avec beaucoup de distance historienne, on n'est pas du tout dans les slogans, les phénomènes qui sont en cours. Je ne suis pas sûr que les commémorations se passeront toujours à Yad Vashem. Simplement, c'était une façon de rappeler aussi la suite de cette histoire. Et finalement, que le lieu, l'un des lieux majeurs de la mémoire de la Shoah, et qui a une charge d'autant plus forte qu'elle se nourrit aussi de l'histoire de la création de l'État d'Israël, puissent accueillir ces dizaines de chefs d'État avait une très forte signification. Ça, C'est pas simplement aux Polonais que ça a déplu aussi aux responsables d'Auschwitz, du musée d'Auschwitz, qui a très très mal pris cette forme de dépossession, et lui pas du tout sur les bases du gouvernement polonais actuel, hein, c'est simplement qu'il considérait qu'Auschwitz était comme le symbole, quoi, et qu'il devait rester le lieu d'accueil. Mais en même temps, l'historiographie nous montre, c'est-à-dire la réflexion sur l'histoire, l'étude sur l'histoire de la Shoah nous montre qu'en fait, on a Auschwitz comme l'un des points culminants, évidemment, sinon le point culminant, d'un des mécanismes d'extermination des Juifs dans la période. Mais ce qu'ont montré en particulier les travaux du Père Desbois et puis de mes collègues allemands en lui et en même temps que lui, c'est l'importance de ce qu'on appelait la Shoah par balle, ou l'extermination de proximité sur les frontières de l'Est, sur les marges de l'Est, où là, on est dans la barbarie absolue, où la question, où on n'est plus dans un mécanisme convoi, chambre à gaz, crématoire, mais fusillade au-dessus des fosses, avec les 250 personnes qui sont ponctionnées dans le village pour creuser, avec les divers métiers qui sont égrenés par Patrick Desbois dans son dernier bouquin. Donc on voit bien que le système d'extermination est un système à plusieurs facettes.
Ce que vous voulez dire, c'est à plusieurs centres, en vérité. Oui. Auschwitz ne doit pas être forcément tenu pour le centre, c'est ça ?
C'est logique, évidemment, que Auschwitz prenne cette importance-là, compte tenu du nombre de morts, compte tenu de l'importance dans le système concentrationnaire nazi. Mais en même temps, c'est intéressant d'avoir en tête ces diverses facettes, cette histoire multiple, complexe, mais qui a toujours cette visée d'extermination.
Pour en revenir à la question de ces commémorations, déjà vous avez évoqué l'idée qu'il y avait une histoire des commémorations et qu'on pourrait dire que le 75e anniversaire, il ne s'est pas passé la même chose qu'au 70e et qu'au 60e, surtout je pense au 60e qui a été peut-être là que la première fois, je ne sais pas si vous seriez d'accord, c'est vraiment devenu un événement monde que cette commémoration.
La commémoration. Pas forcément l'événement lui-même, mais la commémoration. Est effectivement devenu un événement.
À partir du 60e anniversaire, vous direz. Oui, c'est ça, on est d'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur les étapes de cette construction est-ce qu'on pourrait dire de mémorialisation de la Shoah, dont les commémorations sont un des lieux? Et en fait, moi, il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est à partir de quand la notion de devoir de mémoire, avec laquelle on nous rabat les oreilles depuis une semaine, s'est imposée dans l'espace public?
Bon, d'abord,
de cet événement.
D'abord, c'est une catastrophe. Bon, parce qu'à partir du moment où on parle de devoir de mémoire, exigence morale,
absolument,
on sait très bien que les jeunes vont commencer à dire on est dans la compassion, dans la souffrance, on vit la même chose que vivent les victimes, on nous dit qu'il faut faire ça, donc on fait ça, et puis voilà.
Mais le slogan, il est réactivé de manière pavlovienne à chaque fois.
Alors, ça a été le cas cette semaine. On se bat, nous, historiens, pour essayer de...
Il a une histoire, ce slogan, c'est ça que je veux dire.
Voilà, on préfère parler soit du travail d'histoire, soit du travail de mémoire. Oui, mais pas du devoir de mémoire. Et on est obligé de dire, quand par exemple les policiers viennent au mémorial de la Shoah, tous les policiers parisiens viennent au mémorial de la Shoah, et on leur montre un film qui s'appelle « La police sous l'occupation » et pas vraiment pour leur montrer que les policiers étaient des grands résistants. Ensuite, les derniers témoins racontent leur histoire et la plupart du temps, ils n'ont pas vraiment été arrêtés par les Allemands au début. Voilà. Et puis, on est deux, trois historiens à essayer de donner quelques clés. Mais j'essaie toujours, parce que je vois bien, ils prennent sur eux cette histoire. Je dis, mais si le préfet de police a décidé de vous demander de venir tous, des jeunes nouveaux gardiens de la paix, pour comprendre ce qui s'est passé à cette période-là, c'est pas pour vous dire que vous êtes responsable de ce passé-là. C'est pour que vous compreniez ce qui s'est passé avec des gens qui exercent la même profession que vous et qui ont des responsabilités particulières dans le rapport à l'ordre et à l'autorité. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire passer comme idée. Mais si vous commencez à me parler de repentance, de voilà, Mais vous tombez complètement à côté. Parce que ça n'est pas crédible de s'imaginer que vous êtes responsable de ce que vos collègues ont fait il y a 70 ans.
Et pour vous, au mot, à l'expression « devoir de mémoire » est accolée toute cette
oui.
dimension-là, repentance
Bien sûr. Bien sûr, et après c'est une facilité. Bon, c'est la facilité de la formule. Hein. Alors, ce qu'il y a d'intéressant derrière tout ça, c'est que effectivement, le devoir de mémoire, il va, comme formule, et Sébastien Ledoux a fait toute sa thèse là-dessus et un livre là-dessus sur l'histoire du devoir de mémoire. Ça explose, ça naît avant, mais ça explose vraiment dans les années 90. Ça devient le mantra de toute réflexion sur la Shoah et plus généralement sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il faut bien comprendre. Et c'est là la clé pour répondre à la question que vous posez à juste titre, c'est que la mémoire évolue avec l'histoire. Et que donc, il faut qu'on arrive à trouver des séquences successives pour rendre compte de l'histoire de la mémoire, plutôt que de s'imaginer que au sortir de la guerre, on a comme ça une mémoire qui s'impose et qui va être avec plus ou moins d'évolution va être une sorte de référence en continu. Non, ça évolue avec l'histoire et ça est dans une sorte d'interaction avec le présent.
La mémoire évolue avec l'histoire, dites-vous, c'est-à-dire que la mémoire d'un même événement, selon l'histoire, selon l'époque à laquelle on s'en souvient, n'aura pas forcément la même structure, la même. On peut partir d'un cas d'école presque pour essayer de comprendre ces évolutions de la mémoire avec l'histoire.
Je vais vous parler de la mémoire de la Shoah. Ça vous va ?
Non, vous allez me parler de la manière avec laquelle, justement à travers le temps, la représentation de la Shoah s'est pas forcément figurée de la même manière et que donc n'a pas produit les mêmes effets de mémoire,
bien on pourrait sûr.
Dire. Par exemple, alors, vous allez voir où je veux en venir. Est sorti en DVD ces derniers jours, La Cité de la Muette, un film de 1985-6 de Jean-Jacques Lebel, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous l'avez, je sais, d'autant plus en tête, ce documentaire, puisqu'il a été, vous avez participé à l'écriture du livret de ce film. C'est le premier film documentaire qui avait jamais été réalisé sur Drancy, donc au milieu des années 80. C'est un très beau film. Moi, je l'ai découvert, j'avoue que je ne le connaissais pas. C'est un film qui m'a surpris. Et notamment parce que il y a deux choses qui m'ont surpris. Il y a à la fois, on sent qu'on est à un moment, je dirais si j'ai raison, peut-être je me trompe, mais je crois sentir qu'on est à un moment dans les étapes de la mémoire de la Shoah entre une mémoire communiste, juive communiste et une mémoire juive qui va peut-être se disjoindre de l'ancrage communiste, parce que la plupart des témoins qui figurent dans ce film sont des juifs communistes arrêtés parfois pour des faits de résistance. Et donc, il y a une mise en scène du témoin où il apparaît pas forcément comme une... Il se met pas en scène comme victime, moi. C'est ça qui m'a beaucoup surpris dans le film. Oui, enfin voilà, déjà première question, quel est votre avis? Il me semble que ce film, si on raconte aujourd'hui l'histoire de Nancy, ça sera pas, il n'aura pas cette même texture, alors texture mémorielle, on dirait ça comme ça?
Oui, et point de bascule, que vous mettez bien en évidence, que vous sentez bien, c'est-à-dire que c'est au milieu des années 80 que va s'imposer la figure de la victime juive comme figure structurante de la mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale en France. Pas avant. Parce que souvent, on parle du début des années 70, du travail de Serge Klarsfeld, des bouquins de Paxton, puis Marius et Paxton. Bon. Et on dit, voilà, depuis le début des années 70, tchac, on bascule, on est passé, en gros, de la figure du résistant à la figure de la victime juive. Bon, c'est faux. C'est faux.
Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple?
Je veux simplement dire que le moment où tout bascule, c'est le milieu des années 80. C'est le moment, je dis pas où on passe d'une figure de la résistance centrale à une figure centrale de la victime, c'est le moment où on passe à la figure centrale de la victime. Pour revenir sur la singularité de ces années 70-80, avant le tournant de 85, où la figure de la victime juive est très peu présente, beaucoup moins qu'à partir des années 85, bien sûr. Et vraiment, ce film sur Drancy rend vraiment compte de ce moment de bascule. Mmh. Ce n'est pas volontaire de la part de Lebel. Il a fait un superbe film, par ailleurs, avec ses témoignages extraordinaires qu'il a recueillis, où effectivement, pour nous parler de Drancy, bon, il nous parle des Juifs, mais il nous parle des communistes, des Juifs communistes, et des Juifs qui n'étaient pas communistes. Et il mélange tout ça. Et donc, il essaie de rendre compte de cette histoire singulière de Drancy en donnant finalement aux Juifs communistes une place qu'ils n'avaient pas à Drancy. Un certain nombre sont passés par Drancy, bien sûr. Et je pense aux jeunes Juifs de l'équipe de Krasucki. Mmh. Bon. Mais évidemment, ils ne représentent qu'une petite minorité des Juifs qui sont passés par Drancy. Et donc, ils passent à côté, en quelque sorte, où il effleure ce qui est évidemment le cœur de Drancy, qui est, après la phase de l'internement, la phase de la déportation pour l'extermination des Juifs de France. Et c'est pour ça que ce film est pour moi exceptionnel. C'est d'abord une qualité, il faut le reconnaître aussi, hein, c'est un grand film, mais en documentaire, c'est une masse de témoignages datés. Donc moi, ça me passionne, parce que effectivement, les gens ne vont pas dire la même chose dans les années 80, aujourd'hui, dans les années 60, dans les années 50, bon, ou au sortir de la guerre. S'ils ont survécu, ils vont pas nous raconter la même chose, parce que leur propre témoignage va évoluer. Donc c'est magnifique d'avoir ce stock, en quelque sorte, de rush, d'entretien, de témoins. Bon. Et en même temps, d'avoir cet éclairage du point de bascule. Ça, c'est passionnant.
Vous dites qu'ils ne vont pas raconter la même chose. Alors, ce qui est intéressant avec le film, il faut noter justement certaines figures qu'on voit dans le film, dont on connaît les noms, hein, Henri Boulavco, Charles Baron, Armand Dimet, Samuel Radinsky, Georges Weller. C'est des figures de témoins, de survivants qu'on a vus, on pourrait dire, vieillir dans l'histoire des documentaires. Comment vous percevez d'abord, premièrement, comment, effectivement, le témoin est devenu une figure paradigmatique dans la transmission de la mémoire? Ça allait pas de soi. Déjà, il faut l'expliquer. Il y a ce que vous disiez tout à l'heure. Les victimes juives s'imposent au milieu des années 80, mais la figure du témoin, c'est encore autre chose que de dire que la figure du témoin s'impose comme étant le lieu principal de la transmission de la mémoire. Donc comment elle s'impose et comment elle va effectivement évoluer? On pourrait réévoquer ces personnages qu'on voit dans le film, qu'on a vu vieillir, hein, on a vu leur témoignage évoluer. Paulette Sarcey, par exemple, il y a le témoignage de 1983 filmé par Jean-Jacques Lebel, il y a eu un livre qui est sorti en 2015 où elle reprend son histoire. Donc cette question-là de la figure du témoin et de son évolution, pour vous.
Alors, je vais vous dire, au début, j'étais vraiment, et je reste convaincu, qu'on assiste effectivement à une sorte de convergence. C'est le moment de ce milieu des années 80 où on a convergence entre centralité de la victime juive dans les mémoires de la Deuxième Guerre mondiale et centralité de la figure du témoin dans les représentations du passé. Et en même temps, un peu plus tard, on se dit, mais après la Première Guerre mondiale, finalement, donc, il y a plein qui ont témoigné. Il y a plein de livres sur Norton Crowe qui a repris, qui a travaillé sur les témoignages de la Première Guerre mondiale dans les années 20. Donc, attention, quoi. Je veux dire, je me méfie après coup de ma propre réaction qui était, à mon avis, faussée par une vision de peut-être de trop court terme. Voilà. C'est-à-dire que on voit sur plusieurs décennies pour essayer de rendre compte d'un phénomène qui est singulier. Ce qui est singulier, c'est la centralité du témoin victime juive pour raconter l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en France. C'est ça qui a changé. Ça, c'est la nouveauté absolue. Et effectivement, on pourra revenir dessus, mais Si aujourd'hui on a tellement de problèmes avec l'antisémitisme en France, comme l'ont montré les études récentes, hein, qui sont très inquiétantes, que ce soit de Michel Viviorca ou de Dominique Régnier, passionnantes études, mais très inquiétantes sur le niveau de l'antisémitisme en France, c'est peut-être que, voilà, dans les années 80-90, cette centralité de la victime juive s'est accompagnée de la centralité de la question de l'extermination des juifs que, on va dire, la population découvrait, globalement. Et aujourd'hui, peut-être que par ce grignotage terrible des forces qui s'appuient sur l'antisémitisme pour se développer, on a une sorte d'évacuation de cette histoire, de banalisation, de concurrence mémorielle et de mise en avant d'autres priorités et d'instrumentalisation de l'antisémitisme pour pouvoir avancer ses propres revendications.
Alors, ce que vous dites m'invite à poser une question. Vous parliez d'événements monde, on disait que le moment du 60e, il y a 15 ans, du 60e anniversaire de la commémoration avait été probablement un moment de bascule. Moi, je me souviens que c'est à ce moment-là qu'un thème s'est imposé, hein, chez les historiens de la mémoire, le thème de la mémoire saturée de la Shoah. C'est une expression qu'on a beaucoup vue, l'idée d'une saturation de la mémoire de la Shoah. Il y a un livre fameux de Régine Robin qui s'appelle « La mémoire saturée ». Et c'est une expression vraiment qu'on lisait, c'est devenu un topos, une figure vraiment consacrée, mémoire saturée. On peut penser aussi à l'opposition dans le livre de Paul Ricoeur, Mémoire, histoire, oubli, sur l'opposition entre trop de mémoire, juste mémoire. Il y aurait un moment où il y aurait trop de mémoire. Comment vous pensez cette idée que peut-être à un moment donné, il y a eu quelque chose comme une déflagration mémorielle qui s'est mise en place, avec le fait qu'on en arrive là aujourd'hui, où il y a une actualité de l'antisémitisme, alors que précisément, depuis 15-20 ans, on nous dit qu'il faut sans cesse se remettre en mémoire ce qui s'est passé, précisément pour que ne revienne pas ce qui s'est passé. Alors, évidemment, il n'est pas en train de se passer à nouveau la Shoah, mais il y a quelque chose comme un retour de l'antisémitisme qu'on ne cesse de pointer. D'ailleurs, je rappelle que le forum qui s'est tenu à Yad Vashem parlait d'un antisémitisme européen aujourd'hui qui se diffusait. Hein. Donc c'est un problème qui est central. Il y a quelque chose comme si la commémoration rejoignait une actualité.
Oui, et comme si finalement, en se polarisant sur la victime, on oubliait le bourreau. C'est le cœur de du récent bouquin d'Yannis Roder. C'est l'idée que si on veut faire comprendre ce qui s'est passé, il faut déplacer la focale. Au lieu de commencer par la victime, par la compassion, par le soutien, par l'écoute de la souffrance ou la lecture de la souffrance, on commence par, mais comment ça a été possible? Quels sont ces bourreaux qui étaient derrière? Qu'est-ce qui les a motivés? Qu'est-ce qui les a poussés
donc,
à faire
revenir
ça?
Revenir à ce qu'étaient en fait les grandes figures de l'historiographie de la Shoah à partir des années 50. Enfin,
oui, mais à
on
condition...
On sait que Hilberg, enfin, dans oui. La destruction des Juifs d'Europe, Hilberg enfin, a toujours eu un rapport extrêmement distancié avec la figure du témoin.
Oui, alors bon, on ne va pas dire non, mais... Roder qu'il est distant vis-à-vis des témoins,
non,
ça serait
mais...
un peu dommage vu les...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette revendication...
Mais je suis d'accord avec vous.
Cette revendication,
je suis
vous
d'accord
exprimez...
avec vous.
Non, mais juste, elle est contemporaine avec l'angoisse que les témoins, par ailleurs, disparaissent et que quelque chose va se perdre. Il y a ces deux choses en même temps qui se disent là.
Évidemment. Évidemment, et de se dire, finalement, s'ils disparaissent, la vérité va disparaître. Comme si la vérité est dans l'histoire, était liée à l'existence de personnes qui ont vécu l'événement. Alors, il ne faudrait plus faire d'histoire du Moyen-Âge, de l'Antiquité, de la fin du 19e ou du début du 20e. Il ne faudrait plus faire d'histoire de la Première Guerre mondiale. Et on ne comprendrait plus, c'est absurde. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à la fois la singularité de la force d'un témoignage oral, présent, hein, bien entendu, et en même temps que c'est pas parce que les témoins ne sont plus là, d'abord on les a toujours soit enregistrés au micro, soit en audiovisuel, et qui donnent une force à ces témoignages-là, bien entendu, et en même temps, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si on demande autant de choses, si on a demandé autant de choses aux victimes, c'est quand même le cœur, enfin ce qu'on aurait dû dire, c'est que on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Non pas pour excuser, c'est absurde, les bourreaux, mais pour comprendre comment une société peut arriver à faire ça. Comment des bourreaux peuvent arriver à ce degré d'inhumanité qui fait que un certain nombre de personnes, à tort, disent c'est incompréhensible, c'est voilà, et qui donc, parce qu'ils définissent la Shoah comme quelque chose de sacré, vont en parallèle dire bon, ça n'est pas, on ne peut pas l'appréhender par les outils de la recherche et de l'analyse historique. Si on peut l'appréhender, on peut essayer de le comprendre. Après, comment fonctionnent les individus, mais comment ils fonctionnent au Rwanda? Comment ils ont fonctionné au Rwanda? Entre 800 000 et 1 million de morts. Il ne s'agit pas de dire c'est, c'était des nazis qui que... Non. Donc, il y a une dimension anthropologique pour essayer de comprendre comment fonctionnent les individus, les humains, dans ces situations extrêmes. Et puis, il y a, dans un contexte particulier, comment un régime devient un porteur d'un projet d'extermination et le met en œuvre. Et ça, si on ne se donne pas les moyens de le comprendre, on va passer à côté. C'est l'enjeu pédagogique majeur des années qui viennent et l'enjeu pédagogique, la voie pour lutter contre l'antisémitisme d'aujourd'hui.
Bon, je vous remercie beaucoup, Denis Péchanski, puisque vous parlez du Rwanda. Je rappelle, et on a parlé d'Hilbert, que lors de sa troisième édition de La destruction des Juifs d'Europe, il réécrit la postface. Il évoque le Rwanda et ça se finit, ce grand livre se finit désormais par L'histoire s'est répétée. Donc, ce qui confirme ce que vous venez de dire. Alors, je vous remercie. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler du projet Matrice. Ce sera une manière de poursuivre cette discussion. Je rappelle que le coffret Cité de la Muette que l'on a évoqué, le film de Jean-Patrick Lebel, est paru chez Ciné Archives Périphérie avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Il contient ce témoignage en longueur de 3 heures de Paulette Sarcey recueilli en 1983 et qui a été recueilli à nouveau par Karen Taïeb du Mémorial de la Shoah dans un livre qui est paru en 2015. Et il y aura une projection débat du film Cité de la Muette le 5 février cette semaine 2020 à 18h à l'hôtel de Ville de Paris. C'était Mémoire Vive, 2 adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.